BW. Magazine Santé.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, la probabilité que les enfants meurent avant l'âge de 5 ans est 15 fois plus forte en Afrique subsaharienne que dans les pays à revenus élevés. Pour inverser cette tendance, le projet R a été initié.
Ce projet vise d'abord à intégrer les oxymètres de pouls au niveau des centres de santé primaire pour faciliter les diagnostics et permettre le référencement des cas graves à l'hôpital. L'oxymètre de pouls, c'est un petit appareil qui est fixe, portatif, et qui permet de mesurer le taux d'oxygène dans le sang.
L'introduction de l'oxymètre de pouls dans le cadre du projet R, on en parle dans un instant. Nous irons également au Nigeria, confronté à un problème de taille autour de la prise en charge des patients. La fuite des cerveaux dans le domaine de la santé fait que le pays manque de médecins qualifiés. Vous écoutez le magazine Santé, Carole Assignon micro. Bienvenue à toutes et à tous. Améliorer l'accès aux outils de diagnostic des enfants gravement malades pour faciliter les soins de santé primaire et réduire ainsi la mortalité infantile. C'est dans cette optique que le projet R, amélioration de l'identification des détresses respiratoires chez l'enfant, mené par l'ONG Alima, l'Alliance médicale africaine, a été initié. Le docteur Désiré Nebois est le responsable médical du projet.
Ce projet s'inscrit dans la série d'interventions qui vise à améliorer la santé infantile, donc en réduisant le taux de décès chez les enfants de moins de 5 ans. Et les statistiques montrent qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de décès évitables chez cette tranche d'âge. À titre d'exemple, en 2018, sur les tendances de décès chez les enfants, en 2018, c'est à peu près 5,3 millions de décès chez ces enfants et plus de la moitié surviennent en Afrique subsaharienne. Les causes de ces décès évitables sont essentiellement la pneumonie, le paludisme, les infections, les maladies diarrhéiques. Et ce sont des maladies qui s'accompagnent généralement de détresse respiratoire du fait d'un manque d'oxygène dans le sang. Et dans les formations sanitaires périphériques qui constituent en fait le point de contact avec la majorité des populations, le personnel de santé manque d'instruments pour pouvoir identifier ces cas de détresse respiratoire. Donc c'est ce qui justifie en fait l'intégration des oxymètres de pouls au niveau des centres de santé périphériques. Dans nos contextes, c'est beaucoup plus dans les hôpitaux qu'on rencontre ces outils. Et R voudrait vraiment déployer ces outils au niveau périphérique où le besoin y est pour accompagner le personnel de santé.
L'intégration de l'oxymètre de pouls va vraiment changer les choses sur le terrain, en ce qui concerne le diagnostic notamment.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose d'assez innovant. Puisque aujourd'hui, les statistiques montrent qu'en fait, il y a beaucoup de cas d'enfants qui ont besoin d'oxygène, mais qui malheureusement ne sont pas référés vers les hôpitaux parce que le personnel n'a pas d'outils pour identifier ces cas-là. Donc l'oxymètre de pouls va permettre donc, d'identifier les besoins, donc, ce qui va améliorer le niveau de référence.
Et il y a 4 pays qui sont concernés, Mali, Guinée, Niger, Burkina Faso. Pourquoi ce sont ces pays qui ont été sélectionnés?
Oui, ces 4 pays appartiennent à l'Afrique subsaharienne et ce sont les pays où vraiment la mortalité est la plus élevée. Et le projet dans le processus de sélection des sites s'est basé sur un certain nombre de critères, à savoir le critère d'équité, c'est-à-dire où vraiment on a besoin d'intervenir, où on a des taux de mortalité assez élevés. Donc ça c'est le premier critère qui a guidé le choix des pays. Le deuxième critère c'est vraiment la faisabilité. On a priorisé les pays où Alima et ses partenaires interviennent déjà, et où on a de bons rapports avec les différents ministères de la Santé, les ONG, les partenaires locaux, pour vraiment faciliter la mise en œuvre de ce projet. Et aussi des pays où les ministères mettent très bien en œuvre le protocole national de prise en charge intégrée des enfants. Et le troisième critère, c'est l'efficacité. Donc on s'est aussi orienté sur des pays où on a plus la chance donc de réussir la mise en œuvre du projet.
Outre l'amélioration du niveau de référence, l'accessibilité des oxymètres de pouls vise également un autre objectif. C'est ce que nous explique Marine Vignon qui coordonne le projet R qui s'articule autour de plusieurs axes.
Le premier, ça va être l'intégration des oxymètres de pouls dans 200 centres de santé environ, dans 4 pays d'Afrique de l'Ouest. L'oxymètre de pouls au niveau des centres de santé primaire permettra d'affûter les diagnostics, de limiter la surmédication ou de se tromper et de donner des antipaludéens trop rapidement aux enfants. Ensuite, le deuxième axe, Ce sera une recherche qui va être menée par l'INSERM pour évaluer l'impact, l'analyse coefficacité, la faisabilité, l'acceptabilité et surtout produire toutes les évidences scientifiques et favoriser la mise à l'échelle au niveau national et régional.
Et est-ce qu'on peut envisager que, à l'avenir, le projet s'étende à d'autres pays ou quand même la mortalité infantile reste aussi un grand défi ?
Donc l'objectif, quand on parle de mise à l'échelle, c'est une mise à l'échelle au niveau national, mais également régional. C'est pour ça que dans le cadre du projet R, il y a également des pays observateurs qui seront impliqués à partir de la deuxième année de mise en œuvre du projet, qui sont aussi des pays d'Afrique de l'Ouest.
Un volet communication et plaidoyer est également à prendre en compte pour la mise en œuvre du projet. Vous venez de nous rejoindre, vous écoutez le magazine Santé sur la DW, direction à présent le Nigeria. En termes de chiffres, le Nigeria, c'est 203 millions d'habitants en 2018. Il s'agit du pays le plus peuplé d'Afrique, le 7e au monde par son nombre d'habitants. Moins de 50% de la population vit dans des zones urbaines et au moins 24 villes comptent plus d'un million d'habitants. Le taux de natalité dans le pays est très élevé et selon les projections démographiques, il faut s'attendre à une croissance importante de la population dans les années à venir. La population du Nigeria devrait atteindre 440 millions d'habitants en 2050 selon une étude des Nations Unies qui date de 2012. Le poids économique et démographique du Nigeria lui ont valu le surnom de géant d'Afrique. Mais un géant au pied d'argile, surtout dans le domaine de la santé, le paludisme, la poliomyélite, le choléra, la méningite, le sida sont en effet encore des maladies omniprésentes dans le pays où en 2015 l'espérance de vie était d'environ 54 ans. La mortalité infantile était de 10% en 2015 avec 37 médecins pour 100 000 habitants en 2007. Par ailleurs, entre janvier et juin 2017, le Nigeria était le premier pays d'origine des migrants qui traversaient la Méditerranée pour gagner l'Europe. Et parmi les candidats à l'exil, des médecins qualifiés. Un exode qui serait lié notamment aux conditions de travail dans le pays. Notre correspondant Ishaka Adegboye est allé à la rencontre de ces médecins qui ont fait le choix de partir, mais aussi ceux qui restent malgré tout pour mieux comprendre les raisons de cette fuite de cerveau.
La salle d'attente du centre hospitalier de Lagos est bondée. Les patients attendent d'être pris en charge par un médecin, mais faute de docteur, ils sont obligés de passer plusieurs heures avant d'être reçus par un docteur. Liliane Agbo a perdu son nourrisson de 7 mois en raison de ce manque de médecin. Elle raconte sa mésaventure.
I feel we don't have enough professionals.
Il n'y a pas assez de médecins professionnels au Nigeria. Le docteur m'a demandé d'aller en Inde pour une chirurgie d'urgence pour ma fillette parce que la chirurgie ne pouvait être faite au Nigeria. Le système caduc de santé nigérien a tué ma fillette.
Le docteur Foladjimi Ogundele du centre de santé de Lagos veut aussi partir pour l'étranger. Selon lui, les patients nigériens font plus confiance aux médecins nigériens qui sont allés à l'étranger que ceux qui sont restés au pays.
Les patients ne font plus confiance aux docteurs nigériens restés au pays. Ils se disent que les meilleurs sont ceux qui sont allés à l'étranger. Il y a donc un manque de confiance. Les patients sont même prêts à aller se faire soigner au Royaume-Uni au détriment des experts médicaux restés sur place.
Selon les statistiques, le Nigeria dispose d'un médecin pour 50 000 personnes, alors que la norme de l'Organisation mondiale de la santé est d'un médecin pour 600 personnes. Emmanuel Adesanya est le directeur des ressources humaines du centre de santé de Lagos. Il dénonce le manque de médecins.
Times of manpower, we are far, far below.
En termes de personnel, il y a un manque considérable. Comment comprendre qu'on puisse soigner 170 millions d'habitants avec 40 000 médecins? Ce n'est pas le standard de l'Organisation mondiale de la santé. L'environnement du travail n'est pas non plus favorable. Les médecins sont toujours équipés avec des instruments obsolètes.
Le docteur Roland Agbovo du Centre de santé de Lagos évoque les raisons qui motivent les docteurs nigérians à partir mounoyer le talent ailleurs.
Nous savons tous que les études en médecine ne sont pas faciles. La plupart des personnes qui ont fait des études de médecine l'ont fait à la sueur de leur front. Nos parents n'étaient pas aisés et maintenant, avec les charges familiales, il faut viser le meilleur. Les grèves sont toujours d'actualité et le gouvernement ne dit rien de concret. Pourquoi dépenser son énergie? C'est mieux d'aller à l'étranger.
Toujours selon le docteur Roland Agbevo, le gouvernement nigérian doit améliorer le système de santé au Nigeria.
Le gouvernement nigérian ne fait pas confiance à son système de santé. Vous n'ignorez pas que le président Buhari a passé plus de 6 mois à l'étranger pour se soigner. Pourquoi ne pas copier ce système de santé de l'étranger?
Pour l'heure, les fuites de cerveau continuent au détriment de la santé de la population nigériane. Et chacun débrouille les gosses pour la Deutsche Welle.
À la fin de ce magazine Santé, avant de prendre congé de vous, notez que l'avocate des Nations Unies pour les droits des victimes, Sean Connor, était récemment en République démocratique du Congo. Elle a visité des hôpitaux locaux à Goma dans le cadre de ses activités dans le pays pour évaluer ce qui est fait pour les victimes de viols et d'abus sexuels en termes d'assistance médicale, financière et juridique. Une visite qui suscite beaucoup d'espoir, comme nous l'explique le docteur Fabrice Bichango. Il est médecin en chef de l'hôpital Kichero à Goma.
Elle va plaider pour la meilleure prise en charge d'abord de ses victimes. La majorité sont des Congolaises qui ont droit à la vie, d'être bien prises en charge. Je crois qu'elle va plaider par rapport à ça et beaucoup plus pour la réinsertion. Au niveau de l'hôpital, nous prenons en charge sur le volet médical, mais sur la réinsertion, il faut des moyens pour insérer ces femmes-là au niveau de la société. Il faut une prise en charge psychologique et là, tout cela demande des moyens. Nous croyons qu'avec son passage, ça pourra peut-être bouter fort pour que la réinsertion soit effective.
La prise en charge des victimes de viols et d'abus sexuels, un sujet dont on ne manquera pas de parler dans un prochain numéro du magazine Santé. D'ici là, c'est fini pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir et à la prochaine.